Mesdames, Mesdemoiselles, chers collègues, chers amis, un vrai plaisir de vous retrouver. Merci d'être ici, présent, fidèle à la pensée d'Antoine de la Vérendrye. Heureux de pouvoir vous rencontrer parce que nous allons pouvoir dialoguer, parler à propos d'un sujet qui est difficile et qui est l'introspection. Merci, cher Yves, pour toute cette présentation et cette mise en bouche. J'ai prévu, oui, un petit diaporama pour accompagner mon propos. J'entre dans le vif du sujet. Et je vais proposer, donc, dans cette introduction, un certain nombre de chemins critiques, de questions que l'introspection peut poser. Et je voudrais vous faire constater tout d'abord ceci. Il est difficile d'utiliser le mot « introspection ». Difficile, il fait partie, si vous voulez, de ces mots que nous évitons d'utiliser ou que nous utilisons avec d'infinies précautions, toujours quelques inquiétudes devant ce mot. Vous constaterez d'ailleurs que ce terme « introspection » c'est un terme qui a une consonance quelque peu désagréable, et le mot « introspection » ne nous installe pas dans une atmosphère de sens sonore poétique. Nous allons préférer, bien évidemment, des impressions ou des sonorités sonores plus douces, comme, je ne sais pas, « qui pleure là, sinon le vent s'incle à cette heure ?»« Mais qui pleure si proche de moi-même au moment de pleurer ?»« Cette main sur mes traits, quel rêve effleuré ?» Distraitement docile, à quelque fin profonde, attend de ma faiblesse une larme qui fond, etc. Paul Valéry, la jeune Parc, intéressant d'ailleurs, parce que c'est un poème qui nous invite à une forme d'introspection. Alors, oui, ce mot lui-même est désagréable, avec une consonance introspection. Et de plus, ce terme introspection est associé à des mots qui ont pourrait dire des sonorités similaires. Inspection. Oui, l'introspection, est-ce que ce n'est pas une inspection de l'esprit ? Introspection, inspection. Et inspection, en plus, a une connotation extrêmement inquiétante. On redoute l'œil inquisitorial qui vient porter un regard indiscret sur notre vie personnelle et qui risque de porter un jugement sans concession sur ce que nous pensons, sur ce que nous éprouvons. Et d'ailleurs, est-ce que l'on ne risque pas une sanction ? Imaginez, introspection, inspection, sanction, voire condamnation. Et il y a là tout un imaginaire sonore, culturel, qui est fort désagréable. Alors disons-le, oui, le mot d'introspection est difficile d'usage. Le terme d'introspection, vous le savez tous, est défini comme un regard, spectare en latin, qui veut dire regarder. Et il nous met donc dans une situation de spectateur, comme si nous allions assister à un spectacle. Quel spectacle ? Intro. Intro indique un mouvement vers une intériorité. Je pense que c'est important d'avoir ça à l'esprit. Hein. C'est pas un spectacle, et on va le voir, qui est une sorte de spectacle où le spectateur lui-même, pardon, n'est pas désintéressé, mais il y a nécessairement un investissement vers une intériorité. Donc, regarder vers l'intérieur, comme si l'intérieur pouvait se prêter au regard. Comme si, finalement, nous pouvions avoir accès à ce qui reste dans l'ombre, à ce qui est caché. Alors, de quel intérieur s'agit-il ? De quelle intériorité est-il question ? S'agit-il de la vie intérieure ? S'agit-il de devenir spectateur de nos émotions, de nos sentiments, de nos passions, qu'elles fussent négatives ou positives ? S'agit-il de scruter les recoins de la vie psychique ? Alors donc l'introspection, c'est quoi ? C'est une enquête. Voilà. C'est une enquête sur notre vie intime qu'il faudrait révéler. Alors oui, disons-le, l'introspection peut apparaître inquiétante. L'introspection peut apparaître intrusive, dérangeante. L'introspection est vraiment une expérience désagréable. Je ne sais pas pourquoi l'IGM a voulu qu'on s'intéresse comme ça à l'introspection, ça nous met dans une atmosphère extrêmement négative, avec des affects et des sonorités désagréables. Vous savez, l'introspection, ça peut ressembler à l'auscultation que pratique le médecin quand il est en train d'examiner notre corps. Est-ce que ce n'est pas un peu la même chose ? Alors oui. Je pense qu'il y a quelques folies à vouloir parler d'introspection. Et la folie est plus grande, à mon avis, que de vouloir envisager l'introspection comme un chemin de liberté, puisque tel est le titre que j'ai proposé à cette intervention. C'est un chemin d'asservissement, plutôt. Oh oui, il faut le reconnaître. Ah, il faut me soumettre à une enquête sur ma vie intérieure. Une sorte d'indécence, là, peut-être un viol de mon intimité. C'est indiscret. Moi, je veux garder mes secrets pour moi. Je ne veux pas dire ce qui se passe dans mon être. Oh, puis, je n'ai pas tellement envie d'aller regarder exactement, si vous voulez, toutes ces zones d'ombre. J'ai peur peut-être de trouver des choses quelque peu dangereuses. Ça m'angoisse. Voir. Il n'y a peut-être rien, finalement. Je suis peut-être vide, vide de sens. Franchement, quel intérêt à aller porter son regard sur cette vie intérieure. Vous voyez, l'introspection, elle apparaît donc violente, contraignante, voleuse de secrets et d'intimité. Ça peut vous surprendre que je vous dise tout ça, mais je pense que ce sont des a priori ou des préjugés ou des discours ou des sentiments qu'un certain nombre de personnes peuvent ressentir quand on leur lance comme ça à la tête. Introspection. Nous allons conduire une introspection. Ouh là là ! Alors, quelle valeur a donc l'introspection ? Quel crédit peut-on lui accorder ? Et je crois qu'il faut que nous posions vraiment la question de la légitimité. En sachant donc qu'elle est, pour l'instant, comparable à une enquête désagréable, qui me met donc en demeure, comme je le disais, de répondre à des interrogations sur ma vie personnelle, ce qui me tendrait plutôt à fuir l'introspection. Ajoutons d'ailleurs, comme élément négatif, c'est que on pourrait estimer que l'introspection va conduire à figer mon être dans des catégories psychologiques, dans des catégories mentales. Et je tiens à garder ma liberté d'être. Je n'ai pas envie qu'on m'objective. L'introspection, finalement, risque aussi de mettre en péril ma liberté d'être, cette vie intérieure en mouvement. Voilà que je vais être figé comme un émotif, comme un hyperactif, comme un dyslexique, comme un visuel, comme un auditif, etc. Alors que mon être est en mouvement, mon être se modifie, il est flexible. Donc franchement, mettons au loin ces enquêtes introspectives. Alors comment relancer l'introspection? Parce que là, je suis en train de dire, bon, pourquoi parler de l'introspection? Autant se retirer, ça ne sert à rien, tout ça. Oui. Mais je pense que nous avons à surmonter ces représentations négatives, nous avons à les entendre. Il faut les entendre, il faut les écouter, il faut les accueillir. Mais nous allons montrer qu'il y a certainement quelques fécondités à interroger l'introspection, et que l'introspection a des ressources, des forces cachées. Donc soumettons l'introspection à un travail critique pour discerner ce qu'elle est, et nous avons observé peut-être, ou entre-apercevoir des fécondités. Premier élément, pourquoi, et je vais entrer ici dans les trois défis d'Antoine de la Garandrie. J'ai fait, excusez-moi, je pourrais, voilà, libération ou aliénation, etc., il y a des mouvements qui sont décrits ici, donc les trois défis d'Antoine de la Garandrie. Premier défi. Pourquoi l'introspection ne pourrait-elle pas avoir quelques ressources épistémologiques? C'est là un immense défi. Nous connaissons la grandeur d'âme, la générosité d'Antoine de la Garandrie, et je crois que cet homme aimait les défis, justement. Il aimait les obstacles. Alors, il a osé poser une question. L'introspection a-t-elle une valeur scientifique? Eh oui, il a osé poser cette question, et nous allons voir qu'il fallait du courage pour poser une telle question. Oui, l'introspection pourrait être considérée comme une méthode scientifique fiable pour constituer une connaissance objective, expérimentale, vérifiable des processus cognitifs, et pourquoi pas. En ce moment, je suis en train de réduire à dessein, pour pas que nous allions n'importe où, le champ de l'introspection. Je lui donne une valeur d'usage particulière. L'introspection porte et va porter sur son regard sur des phénomènes psychologiques bien particuliers que je vais appeler les phénomènes cognitifs. Ce n'est donc pas toute la vie intérieure qui est prise en compte, quoique. Lorsque je connais avec tout mon être, je connais avec mes sentiments, mes affects, mes passions, avec mon corps, etc. Donc, oui, jusqu'où peut s'engager l'enquête introspective, question que l'on peut se poser. jusqu'où descendons-nous ? Toujours est-il que quand nous interrogeons les phénomènes cognitifs, nécessairement, quelque chose de notre corps, de nos affects, de nos sentiments est pris en considération. Alors, cette réduction aux phénomènes cognitifs ne nous donne pas pour autant l'assurance que l'introspection est une valeur et une légitimité, et une valeur et une légitimité scientifique. Et l'introspection est un sujet polémique, il faut le savoir, c'est un sujet de combat, véritablement. Et depuis longtemps, on considère que, je dirais par la suite depuis quand, que l'introspection ne peut pas répondre aux exigences d'une méthode expérimentale, méthode qui évite tout recours au témoignage direct de personnes. Eh oui, pour constituer une vérité expérimentée et objective, que faut-il ? Il est nécessaire de constituer une vérité objective et expérimentée d'une réalité, que faut-il ? Il est nécessaire d'en faire l'expérience visible, directe. L'observation est une étape capitale pour lire les phénomènes. Or, comment lire dans le psychisme d'un être ? Comment atteindre l'intériorité d'un être ? La vie psychique, y compris nos phénomènes cognitifs, ne s'observe pas directement. Et comment être sûr d'ailleurs que la personne qui témoigne, parce que une personne va devoir témoigner pour parler de sa vie intérieure, comment être sûr que la personne qui témoigne est suffisamment lucide sur elle-même ? Comment s'assurer qu'elle ne nous mente pas ? Alors, le défi est immense, hein. Il y a des obstacles de tout un discours scientifique, il y a ces réticences, ces difficultés d'atteindre peut-être la vie psychique de l'individu. Eh bien oui, je pense qu'Antoine de la Garandrie a relevé le défi et nous allons le voir. Deuxième défi, l'introspection aurait-elle quelques fécondités pédagogiques ? Mais lesquelles ? Il s'agit de montrer que l'introspection aide ou aiderait le travail du pédagogue, soucieux de voir telle personne cheminer vers des savoirs, cheminer vers son être. Alors on peut être surpris par l'usage d'une telle méthode en matière pédagogique, car l'introspection semble produire un détour, voire un détournement. Qu'est-ce qui importe dans le cadre d'un enseignement, d'un apprentissage, et d'un apprentissage d'un savoir, voire d'un apprentissage d'un savoir-faire, etc. Il faut surtout porter son attention sur l'objet du savoir, et moins sur le sujet qui apprend. Et à force de trop se centrer sur la personne qui apprend, à force de conduire la personne vers son soi et vers son intériorité, est-ce que le pédagogue ne détourne pas le sujet de ce qui est important, l'apprentissage d'un savoir ? Est-ce qu'il offre véritablement l'orientation appropriée ? N'est-ce pas une perte de temps ? Ajoutons d'ailleurs que si éventuellement on peut imaginer la pratique d'une introspection dans un cadre individualisé, avec une personne qui pose des questions et une personne qui répond, dans une salle de classe, dites-moi, c'est difficile. 30 élèves, comment faire pour que 30 élèves pratiquent une réflexion sur eux-mêmes ? Alors, je n'apporterai pas directement là dans mon intervention une réponse à cette question, mais ça peut faire partie, en effet, des questions importantes que nous pourrons traiter à d'autres moments. Je pense qu'il faut là aussi montrer que l'on peut relever le défi. Donc, pour l'instant, l'introspection pédagogique constitue un obstacle pédagogique. Comment Antoine de la Garandrie relève-t-il le défi ? Enfin, troisième défi. J'ai pu dire tout à l'heure, on s'est rendu compte que l'introspection, c'est une sorte de vol de mon intimité, que l'on est en train de m'enfermer dans des catégories. Eh bien, l'introspection peut-elle avoir une puissance éthique, une force éthique ? Par éthique, je précise, je repréciserai, on pourra le redire, je n'entends pas la morale. Il ne s'agit pas, voyez-vous, d'évaluer les comportements des individus à l'aide de normes. C'est bien, c'est mal, c'est parfait, tu réponds bien, tu réponds mal. Pas du tout, non. Mais pour moi, l'éthique, c'est permettre à un individu, à une personne, à un être humain, de trouver son chemin d'affirmation personnelle. Comment être quelque chose de plus ? Comment affirmer son désir d'être, sa puissance d'être ? Et nous sommes tous, vous, moi, portés par un désir d'être. Et à chaque fois que notre puissance d'être s'augmente, nous éprouvons une joie d'être. Chaque fois que notre puissance d'être est diminuée, nous éprouvons une tristesse d'être. Alors comment l'introspection pourrait-elle aider le développement de notre désir d'être ? Là aussi, on peut être surpris, puisque l'introspection est un mouvement de retrait sur soi, de retour sur soi, une forme d'auto-méditation qui peut nous empêcher d'agir, de déployer notre être, de viser au-delà, de se donner des horizons, des projets de sens, etc. Est-ce que l'introspection ne nous paralyse-t-elle pas? Est-ce qu'elle n'est pas source finalement de paralysie? On s'enferme sur soi. Comment l'introspection peut-elle nous libérer? On sent... Il est fou quand même Thierry de la Garandrie. Peut-être qu'Antoine de la Garandrie aussi était quelque peu fou. Et nous allons, c'est là son troisième défi, nous allons suivre Antoine de la Garandrie dans ses folies, justement. Très intéressant. Il y a toujours besoin de folie, de rêve, d'hypothèse. Je vous dirais volontiers que tous les grands savants, chercheurs, passent toujours à un moment donné par le rêve, par le délire, par l'utopie, par multiples hypothèses. Alors, voici le premier grand point que je souhaite développer. L'introspection est-elle scientifique? Vous savez qu'Antoine de la Garandrie a publié en 1989 un ouvrage qui s'intitule « Défense et illustration de l'introspection ». Et ce titre est une reprise d'un titre majeur, qui est un titre de Joachim du Bellay. C'est un texte de 1549. Je fais exprès de dire Joachim du Bellay parce que souvent on prononce mal. C'est un français, hein, les CH se prononcent CH. Voilà. Et si vous allez dans les belles terres angevines, il y a un lycée d'ailleurs, Joachim du Bellay. Si vous permettez de dire, puisque Joachim du Bellay est de cette région-là, si vous permettez de dire Joachim du Bellay, les Angevins vont mal le prendre. Hein. Bien. Donc Joachim du Bellay qui a écrit en 1549 un manifeste magnifique qui est « Défense et illustration de la langue française ». Et du Bellay est un militant, il produit là une sorte d'apologie, une défense, une apologie de promotion. La langue française n'est pas encore reconnue et il s'agit de faire reconnaître les richesses de la langue française, notamment au niveau littéraire. L'apologie d'Antoine de la Garandrie, elle est aussi... militante, mais il s'agit pour lui de réagir contre la volonté de pédagogues, de psychologues, de neuroscientifiques d'éliminer l'introspection. Donc c'est une apologie en réaction à tout un ensemble de discours extrêmement violents contre l'introspection. Avant de dire d'où vient ce discours, je tiens quand même à signaler cette phrase qui a peut-être fait bondir Antoine de la Garandrie, que Jean-Pierre Changeux a prononcé en 1982, après la sortie de son ouvrage « L'homme de Ronald », dans un article publié, dans une interview accordée au Monde, où il dit à l'intervieweur « L'homme n'a rien à faire de l'esprit, hein. Il lui suffit d'être un homme de Ronald. Bon. » Jusqu'au jour où on va décoder la conscience uniquement, si vous voulez, par imagerie cérébrale, le pas se fait vite, peut-être. Stanislas Dehaene, professeur au Collège de France, manifeste une telle volonté. Alors, disons-le, il y a là, si vous voulez, oui, c'est une apologie en réaction, plus qu'une apologie de promotion, dans un premier temps, et il faut savoir que le discours contre l'introspection, anti-introspective, remonte au XIXe siècle. Époque du positivisme régnant, époque des sciences expérimentales dominantes, où l'on ne doit avoir affaire qu'à des faits qui s'observent. Et le discours violent s'est prolongé au cours du XXe siècle avec toutes les grandes théories behavioristes, où l'on rend compte seul de l'étude des comportements extérieurs, et les neurosciences elles-mêmes, au contraire, il faut les prendre en considération, mais pour évoquer un discours ambiant très à la mode, tout devient neuro désormais, les neurosciences elles-mêmes utilisent ce terme d'introspection vraiment avec des pincettes. Lisez les premières pages du texte de Stanislas Dehaene qui s'intitule « Le code de la conscience », qui est un texte publié en 2015. Alors, pour quelle raison cette méfiance, voyez-vous, ou pourquoi utiliser l'introspection avec des pincettes? Parce qu'il faut de l'objectivable, vous comprenez? Il faut pouvoir étaler dans un espace d'études, à l'aide de statistiques, à l'aide de représentations graphiques, à l'aide d'imagerie cérébrale, les mécanismes cognitifs, sans témoignage direct des personnes. Et puis là, un spécialiste intervient, pour lire les résultats et rendre compte des mécanismes de la connaissance. Et nous sommes, disons-le, dans une démarche explicative. À savoir, il s'agit de déplier les relations de cause à effet entre plusieurs phénomènes pour expliquer pourquoi il y a attention, pourquoi il y a mémorisation, pourquoi il y a réflexion. Et je le dis, le rêve des neurosciences est de produire un jour une science du mental. C'est le titre de la leçon au Collège de France de Stanislas Dehaene, la leçon inaugurale, qui s'intitule « Vers une science de la vie mentale ». Et donc de produire cette science du mental à partir du fonctionnement cérébral. C'est le cerveau d'ailleurs qui produit la pensée. Le cerveau déborde largement l'activité consciente d'un sujet. Pourquoi dans cette perspective faire appel à l'introspection et au témoignage en première personne? Alors, tous ces discours scientifiques, positivistes, expérimentales, behavioristes, neuroscientifiques, etc., et il y a une vraie filiation, suivent en fait une démarche en troisième personne et croient ainsi s'assurer d'une lecture objective des processus cognitifs. Alors que l'introspection, et signalons bien la difficulté, fait appel à un témoignage en première personne et nous détournerait, semble-t-il, de cette lecture explicative. Avec l'introspection, nous entrons dans une démarche compréhensive, bien plus qu'explicative. Il ne s'agit pas de déplier devant soi et dans un espace scientifique imaginaire les processus cognitifs. Non, nous sommes dans une démarche compréhensive parce qu'un interprète est requis pour traduire le plus fidèlement possible ce que peut exprimer une personne sur ses modalités de connaissance. Et donc oui, nous sommes dans une démarche interprétative et explicitative. On peut faire un lien avec l'entretien d'explicitation, par laquelle il s'agit justement, par cette démarche, il s'agit donc de retrouver les intentions de sens de la personne interrogée. Et les intentions de sens, les intuitions de sens, les projets de sens ne sont pas directement visibles, puisque ce sont des réalités vécues par le sujet. Il n'est pas possible de les mesurer, de les quantifier dans des espaces scientifiques. Et d'ailleurs, cette approche compréhensive, interprétative, explicitative, ne fait pas seulement intervenir des causes efficientes qui permettent d'expliquer les mécanismes à l'œuvre dans les processus cognitifs. Cette démarche fait aussi intervenir ce que je vais appeler les causes finales, c'est-à-dire en vue de quoi ? En vue de quoi tel sujet finalement mémorise-t-il ? Quelles étaient justement ses intentions, ses visées ? Et alors je peux vous dire que les causes finales, ça c'est une chose qui hérisse le poil de tous nos positivistes, behavioristes, expérimentalistes, etc., etc. Alors, comment défendre l'introspection ? Et Antoine de la Garandrie n'est-il pas finalement en porte-à-faux avec toute démarche scientifique qui a fait ses preuves indéniablement ? Et comment alors peut-il défendre un usage scientifique de l'introspection ? Sachez qu'Antoine de la Garandrie procède comme un expérimentaliste. Et il ne voit pas pourquoi, lui, ce ne serait pas possible d'associer une lecture en première personne à une lecture en troisième personne. Et il défend même l'idée d'un dialogue entre les méthodes explicatives et compréhensibles. Il cherche des mécanismes en relation avec des finalités. Et regardons de plus près les choses. Comme tout chercheur en sciences expérimentales, il faut savoir se mettre à l'écoute du réel, sans préjugés. Il faut savoir accueillir ce que nous enseigne le réel, pour en faire comme un livre. Et le réel, d'ailleurs, dans ce travail d'observation, peut même susciter des hypothèses. Et il y a ainsi toute une première introspection qui est riche d'enseignements et que nous pouvons suivre, celle que nous pratiquons tous sans le savoir, comme M. Jourdain fait de la prose. Et cette introspection, eh bien, je vais l'appeler l'introspection empirique. Chacun d'entre nous pratique en effet un retour sur soi, s'interroge sur des actions passées, fait l'examen de sentiments, de pensées. Pourquoi ai-je dit cela ? Tiens, je me souviens de telle rencontre dans le métro. Qu'ai-je donc ressenti à tel moment ? Cette introspection empirique peut être traduite verbalement. La personne exprime ce qu'elle s'est dit, ce qu'elle a pensé, ce qu'elle a imaginé. Et alors là interviennent tout un ensemble d'indices qui ne manquent pas de susciter la curiosité de l'observateur Antoine de la Garandrie. Tiens, la personne utilise de façon récurrente tel mot. Tiens, la personne utilise telle image. Tiens, la personne a besoin de faire des mouvements pour accompagner sa parole. Tiens, cette personne ne termine pas ses phrases. Et ce sont là des indices corporels, verbaux, qui donnent des premiers enseignements sur la façon dont la personne vit son rapport au monde. Ces éléments peuvent constituer des faits pour l'observateur. Et allons un peu plus loin. D'observateur, on pourrait passer, et c'est ce que s'autorise Antoine de la Garandrie, au stade de l'expérimentateur, c'est-à-dire qu'il se met à formuler quelques hypothèses, et avec l'accord de la personne, il peut soumettre ses hypothèses à l'expérience. Vous voyez, la personne pourrait raconter d'autres actions, passées ou à venir, voir ce qui traverse son mental. Est-ce qu'on retrouve les mêmes indices ? Je dois vous avouer que je me suis livré à un petit jeu. J'ai pris beaucoup de plaisir, d'ailleurs. Et je vous dirai à quoi ça aboutit. Je me suis livré à cette observation-là, et demandant aussi à mes camarades, je vais dire lesquels, de se risquer à une introspection empirique. Je n'étais pas encore dans une situation d'introspection méthodique. Donc oui, j'ai observé trois de mes collègues. J'ai observé leurs attitudes, leurs habitudes langagières, leurs comportements, et j'ai relevé quelques indices. J'ai laissé le réel venir m'habiter. Je voyais bien que Hugues, et vous allez me permettre de suivre trois prénoms, ce que je vous raconte, c'est réel, hein, ça s'est passé, etc. Et ces trois personnes existent bien. Donc, je voyais bien que Hugues, lorsqu'il me parlait, usait toujours de mots très précis. Et il plaçait souvent sa main devant lui, comme pour me porter ou pour se porter lui-même dans un espace imaginaire. Et les termes « voir »,« représenter » revenaient régulièrement dans ses discours. Je regardais aussi Jean-Marie, son corps toujours en mouvement, ayant toujours besoin de poser des idées contradictoires, quels que fussent les domaines, dans une sorte d'excitation et d'agitation extrêmement forte. Sa pensée fonctionnant comme un rebond. J'observais aussi Hugo, troisième personnage, et le plaisir qu'il prenait à envisager des trajectoires, des temps de passage. Quels sont... Ah, tiens, il y a un problème, cher Olivier, tu es là. Il y a un problème de... Merci. Merci mille fois. Les temps de passage, mais quels sont les trois points que l'on peut retenir ? Tiens, voici les étapes que nous pouvons suivre. Il avait toujours besoin d'écrire et de composer un schéma récapitulatif. Comme s'il ne se donnait pas d'image visuelle dans sa tête, mais voyez-vous, là ce n'était qu'une hypothèse, et les faits d'ailleurs vont infirmer cette hypothèse que j'ai pu formuler trop rapidement. Alors voici donc toute une série de faits qui m'ont conduit à formuler des hypothèses et que j'ai présenté d'ailleurs lors d'une conférence, il se trouve qu'il y a peut-être 7-9 mois, mon établissement a organisé une conférence rassemblant l'ensemble du personnel éducatif. Alors il y avait des professeurs des écoles, de collèges, de lycées et mes collègues de classe préparatoire. Et puis je suis parti avec trois prénoms sans dire qu'eux-mêmes n'étaient pas au courant, sans dire que de qui il s'agissait. Et puis j'ai dit, pensez-vous que Hugues est dans la salle ? Eh oui, il est là, regardez, etc. Puis, pensez-vous que Hugo est dans la salle ? Alors, à la fin, ils ont compris le jeu, etc. Et il se trouve que... alors, ils sont venus me voir en disant, mais Thierry, c'est complètement fou ce que tu nous as raconté. Et pour Jean-Marie, j'avais donné l'image. Je me disais, enfant, peut-être, avait-il... peut-être, voici ce qu'il faisait, enfant, quand il jouait au train électrique. Il avait besoin de mettre deux locomotives sur un même rail, et de les faire entrechoquer pour voir l'effet que ça pouvait produire. Alors il m'a dit, mais Thierry, c'est complètement fou ce que tu racontes, parce que je suis en train de faire un cours à HEC en ce moment, et voici comment j'ai commencé mon cours économie de religion. Je suis parti de deux thèses contradictoires, et je voulais montrer aux étudiants comment quel choc cela pouvait produire. Voilà, bien. Alors, continuons. Donc, avançons dans ce travail d'hypothèse. Il faut faire preuve de plus de sérieux épistémologique. Là, nous ne sommes que des observateurs. Et il faut peut-être mettre en place un protocole d'expérimentation. Et une deuxième étape est en effet nécessaire, c'est le moment de l'introspection méthodique. Désormais, il ne s'agit plus de s'en tenir à des faits extérieurs. L'observation va porter sur des faits mentaux. On peut toujours douter de l'existence de faits mentaux, ça c'est, et en dépit ou grâce peut-être, je ne sais pas, des témoignages des sujets sur leur comportement cognitif. Et il est vrai qu'il faut procéder toujours avec d'infinies précautions, garder cet esprit d'hypothèse, ne pas forcer le témoignage, ne pas être prisonnier de typologies constituées. L'introspection méthodique offre d'incontestables réponses sur les habitudes évocatives, sur les processus cognitifs. Et un dialogue très riche peut se nouer justement entre une personne interrogée et celui qui pose des questions, admettons l'expérimentateur. Alors qu'y a-t-il de méthodique ? La personne interrogée est mise dans des situations de tâches précises. Faire telle action, comme lire un texte, apprendre une poésie, réciter un théorème, etc. Raconter une histoire. À savoir, la vie cognitive de la personne est directement sollicitée. La difficulté, c'est qu'il y a plusieurs projets de sens qui interviennent et qui compliquent quelque peu cette situation de tâche. Ben oui, parce qu'il y a le projet de sens d'accomplir une tâche. Alors, on pourrait d'ailleurs mettre en évidence qu'il y a même plusieurs projets de sens qui peuvent intervenir dans l'accomplissement de cette tâche. Mais dans le prolongement de cette tâche, la personne devra répondre à des questions qui nécessitent pour elle de faire un retour sur elle-même, une sorte de mouvement réflexif, ce qui suppose un autre projet de sens. Et donc, en suivant le processus de cette introspection méthodique qui procède par étapes, comme un chemin, à travers un chemin, qui ne se satisfait jamais d'une seule réponse, on constate que la première personne est mise à l'épreuve. Et dans cette mise à l'épreuve de la première personne, des structures, des habitudes de sens se dégagent peu à peu. Alors il s'avère ainsi que Hugues, je retrouve mon Hugues, utilise volontiers des images visuelles de schémas. Dans le prolongement de ces images visuelles, à l'aide d'un vocabulaire technique qui nomme chaque chose avec précision, il constitue un discours intérieur, discours qui l'aide à préciser ses images visuelles. Et il se parle pour établir des liens entre les différents points de son espace imaginaire. Et cela a pu être vérifié en lui proposant de traduire en images un texte d'économie. Il s'avère que Jean-Marie construit des discours. Il se donne des images verbales, accompagnées de quelques images visuelles de contexte qui servent de point de repère. Et il a une intention, une visée de sens, parvenir à découvrir comment les discours vont entrer en conflit. Comment chaque discours pourra recevoir un certain nombre d'objections. Il a pu s'avérer d'ailleurs que la lecture d'un seul texte ne satisfait pas son besoin justement de confrontation. Alors il a fallu le mettre en relation avec un autre texte où il a été demandé, ou je lui ai demandé, de rappeler des évocations passées et des compréhensions passées pour refaire, ou un texte enregistré auparavant pour faire revivre ou pour faire vivre cette confrontation. S'il n'y a pas cela, je vais vous dire ce qui se passe. Ces évocations s'arrêtent vite. Ces évocations, finalement, ne trouvent pas des occasions de développement, faute de combattants. Il s'avère que Hugo apprécie tout particulièrement qu'on lui laisse prendre des notes en lisant un texte, en nous écoutant parler. Il est à la recherche d'indices temporels. Il veut voir ou entendre les étapes, peu lui importe. Des perceptions auditives ou des perceptions visuelles peuvent être sollicitées. Pas au même moment. Chaque chose en son temps. Et là, suivant le moyen perceptif utilisé, que fait notre Hugo ? Eh bien, il n'utilise pas forcément les mêmes évocations. Image visuelle d'un cadre avec des repères temporels, si je lui parle, et dans le prolongement, il construit des images verbales, et il refait par ces images verbales le déroulement de ce qui a été entendu. Image verbale accompagnée des mouvements de la main, s'il lit un texte, en se reformulant rapidement les trois étapes du texte, par exemple. Et dans le prolongement, il va se donner une image visuelle fixe qui ne sera jamais en mouvement et qui lui sert de repère pour reconstruire le raisonnement. Alors, ce sont là des faits mentaux, exprimés par trois personnes différentes qui ont conduit, mené une introspection. Ces trois personnes ont fait un mouvement de réflexion sur elles-mêmes, un retour sur elles-mêmes. Elles ont témoigné avec précaution. Pourquoi mentirait-elle? Pourquoi chercherait-elle à nous abuser? Et pourquoi manquerait-elle de lucidité sur ce qu'elles vivent mentalement? Mais l'introspection, pour autant, n'a pas encore révélé toute sa puissance scientifique, épistémologique, et nous devons approfondir le mouvement introspectif en proposant un troisième niveau, l'introspection régressive. Je sais, l'épithète peut vous inquiéter. Il ne s'agit pas d'une régression, il ne s'agit pas de lutter contre le progrès. Non, il s'agit plutôt d'un approfondissement pour que la personne retrouve en elle les sources mêmes des habitudes cognitives. Et là, le travail est plus long, le travail plus patient, car il s'agit de retrouver les atmosphères de sens, les projets de sens, les lieux de sens, qui sont, vous le savez, pour Antoine de la Garandrie, les conditions transcendantales, les a priori nécessaires de toute activité cognitive. Pour Antoine de la Garandrie, il n'y a pas d'activité cognitive si la personne n'est pas installée dans une atmosphère de sens ou dans des atmosphères de sens particulières, s'il n'y a pas de projet sens, s'il n'y a pas de lieu de sens. C'est pas possible, ça. Hein, il faut le dire. Il faut le dire, d'ailleurs, à toutes ces personnes qui font des travaux remarquables sur les mécanismes cérébraux. Il faudrait aussi peut-être interroger ça. Mais oui, il y aurait des articulations, d'ailleurs, à mener. La première personne est toujours requise. Mais ce qui se passe ici, c'est que l'expérimentateur, l'observateur qui se fait expérimentateur, il est lui-même dans cette étape-là de l'introspection régressive, il est lui-même nourri de nombreuses expérimentations. Il a l'habitude des faits mentaux, ce qui lui permet d'identifier, de parvenir à identifier avec prudence les sources de l'activité cognitive ou d'aider la personne interrogée à identifier les sources de son activité cognitive. Autrement dit, l'expérimentateur est nourri par un savoir en troisième personne de la vie mentale. Lui-même, il a déjà expérimenté l'introspection éidétique et je vais y venir. La personne est conduite, en fait, à interroger ses processus cognitifs depuis les vécus de son corps, depuis ses affects. Hugues, alors je vous dirais d'ailleurs, je vais reprendre les trois personnages, je me permets de vous donner cet élément. On pourrait imaginer qu'il y a, on peut lire, excusez-moi, je vais me placer dans un cadre épistémologique, dans ce qu'on pourrait appeler une lecture du vivant. On peut avoir une lecture mécaniste du vivant, hein, où on cherche les causes efficientes et on cherche à montrer pourquoi tel effet dans l'organisme vivant, par exemple. Une lecture très cartésienne, hein, où on planifie les choses. On peut imaginer aussi une lecture plutôt vitaliste, où il s'agit de retrouver les forces actives, expliquer pourquoi la vie est apparue et pourquoi le vivant ici est en activité. On pourrait ici penser à Diderot, Épicure ou d'autres matérialistes. Et puis il y a une lecture plus finaliste, où on pense le vivant en fonction, où on pense l'organisation, le développement des tissus, des organes, en vue de l'organisme qui doit être formé. Hein. Il y a cette lecture finaliste aussi qui peut être envisagée. Alors je vous donne ces trois éléments, pardon pour ce petit détour par une sorte de méthodologie scientifique, parce que je pense que les trois personnages que j'utilise, les trois personnes vivantes, pourraient correspondre, toujours avec prudence, à ces trois figures. Donc Hugues, j'ai envie de l'associer au mécanisme en tant que tel, et Hugues découvre alors qu'il est particulièrement à l'aise dans des atmosphères de sens visuel. Regarder, être regardé, voir. C'est d'ailleurs l'un de ses mots favoris. J'ai vu hier, je verrai ça demain. Je ne vois pas bien où tu veux en venir. Tu as vu? Et ces projets de sens, d'attention, de mémorisation, de réflexion, car il va très vite vers la mémorisation, de réflexion, sont portés par ce projet de sens d'inscrire tout réel dans un espace imaginaire. Pouvoir fixer les choses, pouvoir les placer, les encadrer. Il faut dire que la simple figuration externe ne lui suffit pas. Il faut qu'il intériorise l'image. Et à partir de là, tous ces autres projets de sens peuvent se déployer, et il éprouve, dans ces situations-là, une liberté d'être, une joie de connaître, il est heureux là. Jean-Marie, c'est notre vitaliste, c'est notre Diderot, c'est notre Épicure, c'est notre matérialiste. Il découvre qu'il est à l'aise dans des atmosphères de sens tactiles, à toucher, être touché, matérialisé, façonné, voire modifié. Il a d'ailleurs toute une syntaxe particulière. Je touche du doigt ce problème. Ah, je ne parviens pas à matérialiser ce que tu dis, c'est trop abstrait. Ah, il faut confronter. Et ces projets de sens, d'attention, de créativité, très vite dans la créativité, de compréhension, sont portés par le projet de sens de rendre le réel modulable, modifiable, par contact, par opposition. Tout réel figé, pour Jean-Marie, est du non-vivant et est inintéressant par excellence. Mais ces oppositions, il ne suffit pas pour lui de les observer de l'extérieur, il faut les intérioriser, les ressentir. Mais quel effet cela peut-il faire? Et dans ces moments-là, je vous assure que Jean-Marie, il éprouve une liberté d'être, une joie d'être. Il est reconnu d'ailleurs dans sa particularité ontologique, parce que le cher Jean-Marie, il a beaucoup souffert, il l'a reconnu d'ailleurs après coup, parce que j'ai évoqué ça au moment de la conférence, beaucoup souffert dans son enfance, parce qu'il était souvent mis à la porte des salles de classe, il était toujours en train de s'agiter, de penser à des bêtises, etc. Intenable, insupportable cet enfant. Hugo, notre finaliste, au sens où il est porté par, il vise des causes finales, hein, ça n'a rien à voir avec un tournoi de tennis, bien sûr. Hugo découvre qu'il est particulièrement à l'aise dans des atmosphères de sens sonore. Ah, il aime entendre, il a une voix d'ailleurs, une très belle voix, Hugo. Il aime entendre, écouter, il aime être écouté, il aime distribuer la parole, donner des tours de parole, jouer le rôle de modérateur. Et ses mots favoris sont se mettre à l'écoute, bien entendre, se comprendre. Ah, il utilise parfois logoré, hein, quand ça n'aboutit pas à quelque chose. Parce qu'il faut que ça aboutisse à quelque chose, il est porté par des finalités. Hein. Ah, le discours est discourir. Et d'ailleurs, discourir, c'est parcourir. Bien, ces projets de sens, d'attention, de compréhension, car lui, il a besoin de comprendre avant de mémoriser, au contraire du qui peut mémoriser très vite avant d'aller vers la compréhension. Donc ces projets d'attention, de compréhension, de réflexion, voire ensuite de mémorisation, donc, sont portés par ce projet de sens d'inscrire tout réel dans un cadre temporel, avec des étapes précises, en vue d'une fin. Où allons-nous? Toutes les métaphores spatiales qu'utilise Hugo sont toujours reliées au temps. Hugo temporalise, Hugo refait l'histoire, le parcours du réel, il envisage son devenir. Et alors ainsi, il est heureux, Hugo, hein, ça je peux vous assurer, il éprouve une joie d'être, une liberté d'être. Combien de fois je le trouve dans la salle des profs, quelques minutes avant un cours, et je le vois réfléchir, à quoi penses-tu, Hugo? J'ai deux chemins pour faire mon cours, j'essaye de voir quel est le chemin le plus approprié. Ça lui arrive souvent, vous pensez à cela. Alors, nous pouvons maintenant, aller avec l'expérimentateur, hein, nous avons fait, quoi, il a fait apparaître au travers de ses dialogues un certain nombre de quoi il a fait apparaître, pour être plus précis, des structures de projets de sens. Voilà, qu'est-ce qui forme les projets de sens? Comment les projets de sens se forment-ils, hein, se constituent-ils? Bien, nous pouvons, et il est déjà entré l'expérimentateur dans le cadre d'une introspection éidétique, qui est un syntagme, une expression formée par Antoine de la Garandrie, qui fait remuer quelques chaises universitaires. Est-ce que notre ami Jean-Pierre Regatté est là ou pas? Ah, mon cher JP, mon JP préféré. JP pourra vous dire qu'un professeur de l'université de Nantes, qui s'appelle Michel Fabre, c'est ça, a pu dire que cette expression était un monstre épistémologique. Et nous savons tous qu'un monstre, la valeur d'un monstre, c'est de montrer quelque chose, en fait. Hein, du monstre, et ça montre quelque chose. Donc, c'est, il a raison, mais c'est un monstre épistémologique. Accueillons favorablement cette formule, même si je pense que dans la tête de Michel Fabre, c'était plutôt une critique qu'une reconnaissance. Mais passons là-dessus. Donc oui, bien évidemment, introspection éthique, c'est une expression terrible, inquiétante. Mais ça signifie quoi? Ça signifie cela. L'expérimentateur, à force de pratiquer, d'interroger des personnes, de recueillir des témoignages, de corroborer ou d'infirmer des hypothèses, découvrent quoi? Découvrent des régularités, quand même. Hein. Découvrent des invariants dans les processus cognitifs. Et il est dit qu'en fait, c'est un mot grec, eidos, qui veut dire l'essence. On ne va pas s'embarrasser avec toute cette étymologie. Disons de façon plus rapide qu'on peut associer ce mot à celui de loi, hein, qui dans tout discours scientifique peut être associé à un principe de régularité. Là aussi, je sais que je vais un petit peu vite, mais on n'est pas là pour faire un cours d'épistémologie. L'introspection, alors cette introspection éthique, elle révèle quoi, des lois du fonctionnement cognitif. Voilà ce qui se passe, hein, c'est ça, c'est important. Et cette introspection éthique est le fruit des trois introspections évoquées en amont. Et elle permet donc d'établir des lois de la connaissance, des lois du fonctionnement cognitif, en vue de constituer, et c'est ce que cherche à faire Antoine de la Garandrie dans Comprendre les chemins de la connaissance, en vue de constituer un savoir, peut-être une science, je ne sais pas, des processus mentaux et cognitifs. Sachant, et ça il faut que vous le notiez bien, que vous puissiez bien l'incorporer, sachant que ce savoir, pour Antoine de la Garandrie, reste toujours hypothétique, il ne se veut pas définitif. Mais ce savoir que Antoine de la Garandrie a pu constituer, que vous autres continuez de constituer par toutes vos recherches, vos expérimentations, les dialogues que vous menez, eh bien ce savoir finalement peut aider le travail des sciences cognitives qui souhaitent décrire et expliquer les processus cognitifs. Ce savoir aussi accompagne le travail du pédagogue. Et ce savoir aussi rend possible le développement d'une connaissance de soi pour chaque personne. Donc ce savoir a une vocation épistémologique, une vocation pédagogique, vocation à servir la pédagogie, vocation et une vocation éthique, vers ce que j'appellerais une herméneutique, une compréhension du sujet par lui-même. Alors oui, c'est un savoir en troisième personne, disons-le. Il y a une forme d'objectivation, indéniablement, que propose l'expérimentateur. D'ailleurs, Antoine de la Garandrie a procédé à ces formes d'objectivation, c'est-à-dire il a placé dans des espaces imaginaires le résultat de ses recherches. Vous ouvrez les profils pédagogiques, vous trouvez quoi? Vous trouvez des schémas qu'il est allé chercher d'ailleurs dans Bachelard, et dans, je crois que c'est, comment s'appelle ce texte? Ça m'échappe, c'est pas grave. Donc dans un des textes de Bachelard, où on voit, vous savez, les fameux paramètres. Hein, donc voici une forme d'objectivation, tout simplement, il faut indéniablement. Là, Antoine de la Garandrie se situe en troisième personne. Précisons en fait que, par l'introspection, c'est l'intelligence qui réfléchit sur elle-même. Hein. C'est même toute une forme de pédagogie de l'intelligence. C'est l'intelligence qui s'enseigne à elle-même quelque chose. Hein. On pourrait, vous voyez, dans l'expression « pédagogie de l'intelligence », on peut y voir un double génitif. Hein, c'est soit on éduque, génitif objectif, on éduque l'intelligence, soit génitif subjectif, c'est l'intelligence qui a sa propre pédagogie, hein, sa propre éducation. Donc, l'intelligence réfléchit sur elle-même, accède à son sens d'être. Et donc, on pourrait dire que l'introspection, c'est l'effort que fait l'intelligence pour s'identifier, se connaître, s'enrichir, se développer. Et on voit ainsi que l'introspection est vraiment riche de sens et qu'elle répond indéniablement à des exigences d'une science expérimentale tout en se nourrissant du témoignage en première personne. Mais peut-être que ce témoignage en première personne vient enrichir la science expérimentale. Et pour Antoine de la Garandrie, il n'y a pas d'incompatibilité avec les recherches produites par les sciences du cerveau et par toutes les recherches produites en sciences cognitives et ses propres travaux. Il y aurait même plutôt un manque pour les sciences cognitives de ne pas prendre en compte les vécus de sens de la personne. Et cette prise en compte des vécus de sens de la personne peut ouvrir ou élargir le champ de réflexion dans l'étude du cognitif. Et ça, il faut le prendre en considération. On montre ainsi que l'être humain n'est pas simplement un être conditionné par des processus matériels, par des processus cérébraux, qu'il peut aussi avoir l'intelligence de ses actes, qu'il peut aussi formuler des intentions, des projets de sens. Donc l'introspection, tiens, tout d'un coup, devient source de liberté. Moi, je me demande parfois si certains discours des sciences expérimentales n'a pas tendance à enfermer le sujet dans des déterminations, dans des déterminismes, et on peut se demander, mais où le sujet, alors, est-il acteur de sens? Je crois que là, justement, l'introspection, le passage par l'introspection, nous ouvre une voie. Alors, je passe, rassurez-vous, le temps est compté et je vais être plus laconique, voilà, et plus laconique pour le temps suivant, sachant que je souhaite qu'Emmanuel puisse intervenir. Deuxième temps, donc, l'introspection a-t-elle une valeur pédagogique ? Le statut, en fait, ici, de l'observateur expérimentateur doit être interrogé. Oui, pour qu'il y ait introspection, il faut qu'il y ait dialogue, et cela suppose toute une dialectique, une confrontation, une capacité d'écoute. Avec cette grande difficulté, c'est comment accueillir la parole de l'autre sans présupposer, en mettant entre parenthèses ses préjugés, sans précipitation, sans chercher à enfermer la parole de l'autre dans des représentations mécaniques du mental. Comment éviter les projections ? Comment faire pour ne pas dire « à la place de l'autre » ou signifier « à la place de l'autre » ? C'est-à-dire que ce statut-là de l'expérimentateur est vraiment une pierre d'achoppement épistémologique. Qu'en est-il de l'impartialité de celui qui observe et expérimente ? Peut-il faire comme si l'autre n'existait pas ? Alors, nous devons ici faire évoluer notre regard. Considérer que vouloir appréhender le réel uniquement en troisième personne est une illusion, source d'une lecture appauvrie, et donc que l'intervention d'une deuxième personne est déterminante. Et cette deuxième personne ne peut jamais faire abstraction de son être, de ses expériences, de ses vécus. Et cela est vrai d'ailleurs pour le physiologiste, le biologiste, le mathématicien qui appréhende le réel toujours à partir de ce qu'il est, de son corps, de sa physiologie, de ses atmosphères de sens privilégiées, de ses projets de sens. C'est une illusion, je le dis bien, et pour les sciences expérimentales, comme dans notre démarche introspective, de croire qu'un regard neutre sur le réel puisse exister. Chaque expérimentateur doit d'ailleurs faire un effort d'exploration imaginative. Il doit chercher à se mettre à la place de la réalité qui l'interroge, donc il doit faire tout le temps des hypothèses. Et il y va d'ailleurs, où il fait ce travail d'exploration imaginative, avec l'idée importante qu'il y a toujours une intelligibilité intrinsèque de cette réalité. Alors oui, quand on interroge une personne, on a toujours cette idée qu'il y a là une intelligibilité intrinsèque. Et cette intelligibilité intrinsèque, il s'agit de la découvrir, elle n'est pas immédiatement apparente. Chaque expérimentateur pratique l'empathie, cherche à retrouver en soi les raisons d'être d'une réalité. Et c'est vrai pour le physiologiste, le biologiste, le mathématicien. Il n'est pas qu'un observateur, d'ailleurs. Il se fait aussi interprète. Et à un moment donné, il doit entrer, par son travail d'hypothèse, dans une logique d'explicitation. Il doit interpréter le réel. Le réel ne se livre pas comme ça d'emblée, de façon transparente. C'est faux. Et la seule lecture des mécanismes ne suffit pas à comprendre ce qui se passe. Alors, la pratique du dialogue pédagogique, c'est un terme, si vous voulez, pour moi générique, je le dis d'emblée. Après, chacun peut avoir ses propres définitions par rapport à cela, je les respecte, mais par dialogue pédagogique, moi j'entends pratique d'accompagnement, d'aide, de remédiation, de profil pédagogique, entretien d'explicitation, etc. Bon. Alors, j'entends tout cela. Alors, la pratique du dialogue pédagogique, c'est une explicitation que la personne accompagnée fait d'elle-même par la médiation de l'expérimentateur ou du pédagogue. Tiens, voici que je fais intervenir cette figure-là. Autrement dit, l'accès à la connaissance de soi et de ses processus cognitifs nécessite la deuxième personne. Il n'y a pas de première personne sans deuxième personne. Et même en son fort intérieur, la première personne s'adresse toujours à un autre, à une altérité. Le chemin vers soi passe par l'autre, etc. Un équilibre relationnel, d'ailleurs, doit être trouvé entre la deuxième et la première personne. Il y a là toute une éthique, si vous voulez, de l'expérimentateur et du pédagogue, qui est nécessaire. Donnons quelques éléments, justement, de cette éthique. Créer un climat de confiance. Être dans un principe de considération positive. Croire en l'intelligence de chaque être. croire en la plasticité du mental et du cerveau. L'intelligence n'est pas une chose innée. Favoriser une sollicitude devançante et non pas substitutive. Permettre à la personne interrogée de s'installer dans son atmosphère de sens privilégiée pour qu'elle puisse créer un climat de familiarité avec des objets à manipuler ou à connaître. Il y a ainsi tout un ensemble de précautions qui font partie d'un protocole à la fois expérimental et pédagogique. Alors il faut s'entendre, expérimentateur ou pédagogue, ou expérimentateur et pédagogue. Les deux éléments de l'alternative sont recevables. L'expérimentateur, il est, lui, dans une finalité particulière. Merci mille fois, Catherine, de penser à moi. C'est magnifique. Finalité particulière. Il est inscrit dans un programme de recherche. Il vise à constituer et à affiner une science des actes de connaissance. Alors que le pédagogue est dans une autre finalité. Il souhaite accompagner la personne sur le chemin de son être, l'aider à développer son pouvoir de connaissance. Le risque avec l'expérimentateur est le suivant, qu'il dépersonnalise la relation, oubliant qu'il y a une personne qui cherche à se connaître. Le risque avec le pédagogue est qu'il personnalise trop la relation, avec la tentation d'étouffer la personne accompagnée. Alors il s'agirait d'aider l'expérimentateur à retrouver en lui le souffle de la deuxième personne pour ne pas se laisser dominer par les impératifs de la troisième personne et sa volonté de constituer une connaissance objective. Et il s'agirait d'aider le pédagogue à retrouver les vertus de l'observateur qui sait se mettre à l'écoute du réel en évitant de se croire indispensable. Vous voyez que le rôle de l'interprète, expérimentateur ou pédagogue est difficile. Il y a tout un ensemble de signes, de signaux, qui révèle quelque chose de la personne interrogée et accompagnée, qu'il faut savoir accueillir avec prudence. Comment être un interprète? Non pas seulement pour expliquer, rendre compte d'un mécanisme cognitif, mais aussi pour expliciter, faisons la différence entre expliquer et expliciter, pour expliciter, c'est-à-dire interpréter les intentions de sens qui rendent possibles ces mécanismes cognitifs. Autrement dit, partir de la liberté de la personne. Elle n'est pas seulement donc assujettie à des mécanismes cérébraux, à des habitudes de sens. Elle prend aussi des initiatives, cette personne. Elle fait preuve de créativité. Elle innove dans ses façons d'apprendre. Elle découvre en elle des potentialités. Et voyez-vous, l'expérimentateur pourrait avoir la tentation de penser cette visée de sens à la lumière des mécanismes. Là où le pédagogue chercherait davantage à mettre la lumière sur la liberté créative du sujet. Il y a donc, à mon avis, une complémentarité à envisager entre expliquer et comprendre, expliquer et interpréter entre l'expérimentateur et le pédagogue, et je pense qu'Antoine de la Garandrie, en fait, a vécu cette double vocation. Il a été à la fois expérimentateur, bien évidemment, et aussi pédagogue, vous le savez. Alors, cela ne nous dit rien encore des vertus pédagogiques de l'introspection. Si pédagogie peut signifier un art d'apprendre, en quoi l'introspection sert-elle cet art d'apprendre? Nous avons conscience, vous avez conscience, que pour connaître le réel, l'être humain doit se connaître lui-même, c'est-à-dire que dans toute acquisition de savoir, notre être est partie prenante, il s'y trouve pleinement engagé, corps et âme. Certains, d'ailleurs, investissent trop leur être au détriment du savoir, d'autres investissent trop le savoir au détriment de leur être. Or, l'introspection, ce mouvement réflexif sur soi, aide à trouver un équilibre, apprendre de soi pour mieux apprendre le réel. Et constatons alors que ce double mouvement auquel nous initie l'introspection concerne à la fois celui qui interroge et celui qui est interrogé. Il y a donc toute une dialectique qui se noue ainsi dans la relation pédagogique. Et c'est une relation pédagogique, même du point de vue de l'expérimentateur, car chacun apprend sur soi, apprend sur l'autre, apprend sur le réel. L'introspection, voyez-vous, rend possible ainsi multiples confrontations. Précisons les choses. Pour pratiquer l'introspection, des stratégies cognitives multiples doivent intervenir. Regardons ce qui se passe du côté de la personne interrogée et accompagnée. Est requis un acte d'attention, Il s'agit en effet de développer le projet de sens, d'accueillir des indices, des signes de son propre fonctionnement cognitif, soit pour les mettre en image, soit pour les parler, soit pour les dessiner, ou encore les écrire. Là, j'ai noté que j'utilise souvent l'expression « je me suis dit » et requis également un acte de réflexion à double niveau, retour réflexif sur soi-même, mise en image de son être, mise à distance de soi, mais retour également sur les actes qui ont pu être effectués préalablement, avec la découverte parfois d'une mémorisation qui a pu s'activer sans projet de sens explicite et qui permet de retrouver un acte passé. Et requis également un geste de compréhension pour promouvoir le sens de ce qui se passe dans sa tête. N'y a-t-il pas ainsi des liens de similitude entre ma façon d'apprendre une poésie et celle de me souvenir d'un match de football ? Ou n'y a-t-il pas des différences, pour rester dans des analogies, entre ma façon d'opérer et celle de mon camarade ? Et l'identification de cette différence participe d'une compréhension de soi-même. Et est requis un acte de créativité. La personne interrogée n'a-t-elle pas le droit d'émettre des hypothèses sur ses habitudes de sens? Et ne peut-elle pas d'elle-même prendre des initiatives pour découvrir quoi? Pour découvrir les valeurs libératrices de l'introspection. Se faire interprète de soi-même pour enrichir ses potentialités d'être. Et là, il y a une liberté créative à l'œuvre, sur soi. Et puis, il faut aussi verbaliser, et ça, c'est pas évident, parler de soi, la première personne. Et cette extériorisation peut être difficile. Et elle intervient même, d'ailleurs, cette verbalisation, elle intervient chez des personnes qui n'ont pas nécessairement de hautes habitudes de sens verbal, hein, et qui vont être capables, justement, de traduire, d'expliciter ce qui se passe. Alors, on se rend compte quoi ? On se rend compte de quoi ? Que la pratique de l'introspection nécessite l'apprentissage, ou nécessite un apprentissage, et un apprentissage collectif, et par ce fait, l'introspection rend possible un progrès cognitif. Donc, oui, l'introspection, c'est une connaissance de soi et sur ses processus cognitifs. C'est une meilleure maîtrise de ces procédures d'apprentissage, par exemple. Mais c'est surtout une pratique cognitive. Voilà ce que c'est que l'introspection. Pour conduire une introspection sur soi-même, les projets de sens, d'attention, de mémorisation, de compréhension, de réflexion, de créativité sont requis. Et vous voyez que la méthode utilisée n'est pas qu'une méthode extérieure à la personne interrogée et accompagnée. Elle est aussi une méthode qui, s'intériorisant, permet de découvrir en soi un pouvoir de connaissance en acte. Et c'est une introspection en acte. Cette découverte des vertus pédagogiques de l'introspection, j'apprends quelque chose de moi, nécessite la deuxième personne, et le pédagogue est important comme expérimentateur. Alors, il est sans doute plus difficile, plus exigeant d'être pédagogue que d'être accompagné ou interrogé. Il y a de multiples attentions qui sont requises. Attention portée au comportement de la personne accompagnée, attention aux questions que l'on pose, attention des réponses proposées, avec l'idée que être attentif ici, c'est laisser la possibilité du réel s'exprimer en soi, sans volonté interprétative dans un premier temps, sans chercher à vouloir enfermer la personne interrogée et accompagnée dans des catégories. Mais le pédagogue, il doit aussi, comme l'expérimentateur, faire preuve de créativité. À un moment donné, le dialogue peut être rompu, l'expérimentateur ou le pédagogue ne sait plus comment faire. Et là, des hypothèses sont nécessaires, des questions inédites. Certes, cette créativité s'anticipe. L'imaginaire d'avenir d'un dialogue pédagogique, d'une expérimentation pour parvenir à découvrir les processus cognitifs, un imaginaire d'avenir donc peut se mettre en place, on imagine des questions, des hypothèses que l'on pourrait formuler. Cette créativité particulière n'est pas au service directement de la première personne. Elle s'exprime comme deuxième personne pour permettre la révélation de l'autre. C'est ça qui est difficile, en fait. Le pédagogue s'efface quelque peu. Il devient deuxième personne. Il doit se nourrir de son rôle en deuxième personne. Cela exige donc tout un décentrement par rapport à soi, puisque l'on se met au service de l'autre. Avec tout un ensemble de croyances et de convictions nécessaires, savoir que l'autre peut parler de soi, peut développer son intelligence, etc. Ce qui est certain, c'est que le pédagogue, il croit nécessairement à la médiation de l'autre, il croit à la richesse du dialogue pédagogique. Mais il y a là une conséquence majeure de ce que je suis en train de vous dire, de cette intervention du pédagogue et de l'expérimentateur pour la personne interrogée et accompagnée. Qu'est-ce qui se passe? Quel acquis de sens extrêmement fort? La personne, en fait, interrogée, découvre en l'autre la passion du pédagogue, la passion de la personne qui interroge, la passion de la personne qui propose, qui émet des hypothèses, qui veut produire une compréhension. Il voit la joie qu'il y a d'être en deuxième personne. Et la personne accompagnée découvre ainsi les vertus du « tu » pour le « je ». Et pourrait éventuellement estimer que son propre jeu pourrait se nourrir de ce tu-là. Et peut-être même pourrait-il lui-même s'imaginer dans une posture de tu, qui peut être aussi l'expérience, cette posture du tu, de cette deuxième personne, une expérience qui libère finalement. Le fait d'imaginer que l'on va formuler des hypothèses, ou le fait même d'être en action dans un dialogue pédagogique, si vous voulez, c'est même libérateur pour le pédagogue ou l'expérimentateur qui découvre en lui-même des nouvelles potentialités. Donc nous avons bien affaire, si vous voulez, à une dualité constructive qui s'opère par l'introspection. Ça, je crois que c'est important. Alors je termine enfin, le dernier mot, c'est promis, cher président. L'introspection est-elle éthique? Voilà, compréhension de soi, libération et joie d'être, découverte et invention de sa première personne, l'introspection une pratique existentielle. Nous pouvons dès lors concevoir, dans une sorte d'allégro final, les vertus libératrices de l'introspection. Pourquoi l'introspection est-elle liberté? Par liberté, j'entendrais là simplement un mouvement de libération de l'être humain. Il s'affranchit d'une ignorance. Il dévoile, découvre peut-être, invente sans doute ses potentialités et habitudes cognitives. Il peut alors s'affranchir de tout un ensemble de représentations qu'il pouvait se donner ou qu'on lui a imposées, représentations qui pouvaient l'enfermer dans des sentiments d'incapacité, dans des sentiments de frustration, dans des sentiments de culpabilité. Notre ami Hugues, je le retrouve, il a une exigence de fidélité à l'égard du réel, vous ne pouvez pas savoir. Et il se sent toujours quelque peu coupable. N'ai-je pas trahi le réel? N'ai-je point été trop dans l'interprétation? N'ai-je pas forcé le trait? Mais Hugues découvre que ses scrupules ne sont pas partagés par tous les êtres humains, que tous les êtres humains ne s'en font pas pour autant ou autant que lui, parce qu'il y a des projets de sens et des habitudes cognitives différentes. Et alors, il pourrait peut-être lever ses scrupules, et il le découvre par le dialogue, et le dialogue pédagogique, par exemple. Et alors, il pourrait peut-être lever ses scrupules. Il n'est pas en dette à l'égard du réel. Son être est ainsi fait qu'il se désinvestit trop par rapport à ce qui est. Mais il a de la marge, franchement. Et il peut remettre un peu de son soi dans le réel, prendre quelques initiatives. Non, le réel ne sera pas trahi ni trompé pour autant. Et Jean-Marie, lui, il a parfois un complexe d'infériorité. Il ne se sent pas à la hauteur de l'événement. Il craint pour son pouvoir-être. Est-ce que je vais pouvoir m'exprimer? Donc il est dans une sorte d'agitation frénétique. Et il investit toujours plus. Il veut toujours occuper le terrain. C'est fatigant parfois, Jean-Marie. Et à force, justement, il épuise le réel. Il est d'ailleurs toujours en train d'imaginer des transformations possibles, en créant de nouveaux chocs. Eh bien, par l'introspection, il découvre que les ressources de son être ne sont pas en danger, qu'il existe même des ressources dans le réel qui pourraient être source de nouvelles énergies pour lui-même. Réapprendre la distance entre soi et le monde pour écouter le monde. Hugues découvre alors en lui des ressources insoupçonnées, et Jean-Marie invente un autre rapport au monde. Et l'un et l'autre composent un nouveau rapport d'adéquation avec leur environnement. Ils dépassent une ignorance qui les aliénait grâce à l'introspection. L'éthique est ainsi l'expérience d'une libération de tout un ensemble de représentations, de discours, de croyances qui enferment donc les personnes dans ces sentiments négatifs à propos d'eux-mêmes. La puissance d'être de chacun est empêchée et cette prise de conscience qu'autorise l'introspection rend possible l'affranchissement de ces croyances négatives et apporte un sentiment de sécurité intérieure. C'est la découverte et l'invention de la première personne. Il faut donc donner à l'introspection un horizon éthique. Ne pas simplement se contenter de cette connaissance de soi-même par explication ou explicitation. Ne pas limiter cet usage réflexif à la remédiation scolaire et au surmontement des difficultés d'apprentissage. Faire de l'introspection cognitive une pratique courante pour l'être humain, une pratique existentielle. Justement, on peut porter l'introspection dans l'avenir, on peut ouvrir l'imaginaire d'avenir, et on peut demander, ou la personne peut s'essayer plutôt, à envisager que dans telle situation, elle pourrait s'essayer à l'introspection pour envisager comment elle peut accorder ses possibilités d'être avec les exigences du réel. Il y a donc ainsi toute une nouvelle pédagogie de l'introspection à proposer, si vous voulez, non pas simplement comme une méthode qui accompagnerait, qui lirait, etc., mais plutôt faire en sorte que chaque sujet pratique, chaque personne pratique l'introspection pour composer des rapports d'adéquation avec autrui, avec le monde et avec soi-même. Je vous remercie.